Les par actualités.
Bonjour à tous, François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis. Et dans cette édition des Paractualités, il sera question d'autisme, il sera question d'une conférence en matière de revendication de droits. Il sera également question de la Fondation Réa. Avec moi en studio pour en parler, je les présente tout de suite, Simon Caron qui est agent de défense des droits chez Execo, c'est
Bonjour.
Ça?
Bonjour, oui, exactement.
Bonjour. Et Daniel Lanteng, qui lui est directeur de la Fondation Réa, c'est ça? Directeur général de la Fondation Réa.
Bonjour.
Bonjour, messieurs. Alors, on aura l'occasion de se reparler un peu plus tard au cours de cette émission. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Alors, on attaque tout de suite avec une nouvelle qui prend le contre-pied de ce que beaucoup de parents d'enfants autistes croyaient savoir. C'est Mathieu Perrault dans la presse qui nous l'apprend. Le bilinguisme aurait des effets bénéfiques pour les autistes. Le bilinguisme ne nuit pas aux enfants autistes, comme le disent plusieurs professionnels dans leurs recommandations aux parents. Au contraire, il semble protéger des effets délétères de l'autisme sur la flexibilité cognitive, selon une nouvelle étude montréalaise. Comme les enfants autistes sont souvent en retard de langage, les professionnels pensaient que le bilinguisme était contre-indiqué parce qu'il compliquerait l'acquisition du langage, explique Aparna Nadigne, chercheuse à l'Université McGill, qui est l'auteur principal de l'étude publiée dans la revue Child Development. Nous voulions vérifier cela, vu que chez les enfants ne souffrant pas d'autisme, le bilinguisme ne nuit pas à l'apprentissage de la langue. Il y a aussi un effet positif sur la flexibilité cognitive qui pose souvent problème chez les autistes. La flexibilité cognitive, c'est la capacité de passer rapidement d'une tâche à l'autre, très utile à l'école, par exemple. Dans l'étude de Mme Nadig, qui portait sur 40 autistes montréalais de 6 à 10 ans, elle était testée en leur faisant passer deux tests. Il fallait classer des images sur un écran tout d'abord selon leur couleur, puis selon leur forme. L'effet a été indéniable. Les bilingues, la moitié des enfants l'étaient, avaient une meilleure flexibilité cognitive que les monolingues. Mme Nadig prévient par contre que le nombre de cobayes est petit et que ces résultats doivent donc être reproduits par d'autres chercheurs pour qu'ils mènent à des recommandations. Elle va bientôt publier une autre étude sur les impacts du bilinguisme sur les capacités langagières des autistes dont elle ne pouvait pas encore dévoiler les résultats. Autre bémol, aucun des autistes n'avait de déficience intellectuelle et seulement le tiers avait un retard de langage. Le nombre de retards de langage était trop petit pour qu'on puisse faire des analyses statistiques, dit Mme Nadig. Elle prévient aussi que certains des enfants bilingues connaissaient un peu d'autres langues et veut maintenant suivre les 40 enfants dans 3 et 5 ans. Quel pourrait être le mécanisme améliorant la flexibilité cognitive chez les bilingues? Pour être bilingue, il faut passer rapidement d'un ensemble de règles grammaticales et de vocabulaire à un autre, explique Mme Nadig. Les enfants étaient considérés comme bilingues s'ils avaient été exposés à deux langues différentes pendant plus de 20% de leur vie et s'ils avaient un niveau suffisant à différents tests. Un enfant sur 68 chez les Américains reçoit un diagnostic d'autisme. 26 à 58% des autistes ont une déficience intellectuelle et finalement 30 à 65% des autistes ont un retard de langage. L'oratoire Saint-Joseph sera accessible aux personnes à mobilité réduite, ce que nous apprend Radio-Canada. La remise à neuf de l'oratoire Saint-Joseph reprendra cette année pour aboutir en 2020 à l'aménagement d'un observatoire au sommet de la basilique. Ce sera la plus haute fenêtre sur Montréal. Dans la prochaine phase des travaux, certains des espaces seront illuminés et un nouveau pavillon d'accueil sera installé. Il se fera plus invitant pour les piétons grâce à un réaménagement paysager. Le recteur du sanctuaire, le père Claude Groux, explique que ces projets, dont la réalisation s'étirera sur 2 ans, découlent notamment d'un souci d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. L'idée de rendre ça accessible, ça fait partie du projet de l'oratoire depuis le tout début. Qu'on puisse en faire un peu un lieu où les gens, oui, un peu, un lieu où les gens peuvent faire une expérience de contemplation, de prière et d'admiration de tout ce qui est beau dans la nature. La crypte sera, par exemple, directement reliée au chemin Queen Mary par des escaliers mécaniques, a-t-il mentionné en entrevue téléphonique avec la presse canadienne. La dernière phase de cette cure de jeunesse prévoit quant à elle la rénovation complète du musée de l'oratoire à partir duquel les visiteurs pourront accéder à l'espace entre les dômes intérieurs et extérieurs pour observer la basilique en la surplombant. Ces travaux nécessiteront dans l'ensemble des investissements de 80 millions de dollars. Alors, du 29 janvier au 2 mars, c'est le mois de la justice, et je vous dirais un mois pour la justice, c'est relativement peu, M. Caron.
Oui, effectivement.
De quoi allez-vous nous parler précisément comme activité dans le cadre de ce mois-là?
Ben, en fait, c'est que dans le cadre donc, du mois de la justice qui est organisé par Jury Pop à chaque année, d'ailleurs, c'est la troisième édition cette année. Donc, Execo, on y participe. On a organisé une conférence donc vendredi, le 2 mars, en après-midi, sur la question du droit à la santé et plus particulièrement ce qui touche le soutien à domicile. Parce qu'on sait que dans les dernières années, hein, il y a eu, disons, l'austérité. Il y a eu des choix politiques qui ont été faits. Évidemment, ça a eu des conséquences sur les usagers, entre autres, beaucoup d'usagers qui ont eu des coupes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est important de connaître nos droits. Donc, cette conférence vous offre de vous expliquer d'abord, de façon très large, quels sont nos droits en santé et ensuite, quel est ce mécanisme au Québec qui existe, ce mécanisme de plainte en santé. Mm-hmm. Donc, les invités, on est très fiers, en fait, d'avoir Maître Alain Gaulin, donc de Jury Pop, qui va être présent, évidemment. Il va y avoir aussi Nathalie Désiel, du Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes, hein, qui est vraiment l'organisme qui est la porte d'entrée pour les usagers lorsqu'ils doivent faire une plainte ou faire une plainte, comment le faire. Vous allez avoir toutes les explications avec elle. Et ensuite, on est très content parce qu'on a deux personnes qui sont au cœur, en fait, de ce mécanisme de plainte-là. On parle de Céline Roy, qui est commissaire aux plaintes et à la qualité des services au CIUS Centre-Sud, et Pauline Cummings, que là, je dois lire son titre parce que c'est quelque chose. Donc, elle est coordonnatrice à la direction des enquêtes en santé et services sociaux au Bureau du protecteur du citoyen. Alors, c'est vraiment deux personnes qui sont au cœur de la machine, qui vont pouvoir nous expliquer à la fois comment ça fonctionne, mais aussi quelles sont les limites, en fait, du mécanisme de plainte au Québec.
Oui, parce qu'il faut bien le dire, quand quelqu'un décide qu'un bénéficiaire a droit à tant d'heures par semaine ou va être placé sur une liste d'attente ou n'aura pas tel service, cette personne-là a des recours. On n'est pas tenu d'accepter une décision qui est hautement défavorable.
Bien, effectivement, il y a la fameuse L4-13, là, la loi sur la santé et services sociaux, donc qui nous protège. Évidemment, comme toute loi et comme tout mécanisme, il y a des limites, hein, c'est important de le savoir. Par contre, le service de plainte, c'est à la fois donc une façon de faire respecter nos droits, c'est aussi une façon d'envoyer un message. Il y a un problème et voici le nombre de plaintes qu'il y a eu cette année. C'est des données que le Bureau du protecteur du citoyen utilise pour faire ses recommandations dans ses rapports à chaque année. Donc, c'est important de se faire visible, d'exprimer son mécontentement.
Est-ce que c'est une impression de ma part? J'ai le sentiment que les bénéficiaires de ces services-là, justement, sont une clientèle vulnérable qui se plaint très, très, très peu par rapport à ce qu'elle aurait le droit de faire et que c'est souvent l'entourage qui s'occupe de défendre leurs droits.
Oui, effectivement, c'est une première chose. D'abord, oui, c'est une clientèle qui est vulnérable. C'est la raison pour laquelle, justement, il est important de leur faire connaître les droits. D'ailleurs, cette conférence-là, je ne l'ai pas dit, mais s'adresse autant aux usagers, aux intervenants du communautaire et aux intervenants en santé. Hein, parce que, justement, il faut même des organismes, par exemple, d'aidants naturels. Parce que effectivement, une personne en situation de handicap, c'est une communauté, hein, c'est une communauté d'intervenants et de familles qui les entourent. C'est important qu'on sache tous quels sont ces mécanismes-là puis comment défendre le mieux possible les intérêts de la personne en situation de handicap.
Et entre tous les thèmes qu'Execo pouvait défendre dans le cadre de ce mois de la justice, pourquoi celui-là précisément cette année? Qu'est-ce qui fait que ça a retenu votre attention?
Le soutien à domicile, hein, c'est vraiment au cœur de la vie d'une personne en situation de handicap. Nous, évidemment, ce qu'on prône chez Execo, c'est une inclusion sociale totale, hein, que les personnes puissent être autonomes et participer économiquement, mais de façon citoyenne aussi et dans leur vie de tous les jours. Et à partir du moment où on a plus droit, si on n'a pas un nombre adéquat d'heures de soutien à domicile, ça vient nous bloquer dans notre autonomie, mm-hmm. et ça vient isoler les gens. Et donc, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que dans les dernières années, là où le bas blesse, en fait, c'est vraiment au niveau du soutien à domicile, c'est vraiment le cœur de la guerre, alors le nerf de la guerre plutôt. Ouais. Et donc, on s'est dit, ouais, il est temps de travailler là.
OK. Et finalement, c'est quand même mieux comme solution que CHSLD fits all?
Ben oui, effectivement, on le sait. Hein, il y a une personne sur 10 dans les CHSLD qui ont moins de 65 ans. Je veux dire, c'est une image assez claire qu'il y a un problème au niveau du système actuel. Mm-hmm. Et donc, il est temps, je pense, au Québec d'être un peu plus ambitieux au niveau de l'accessibilité universelle. Et ça fait quand même 25 ans qu'on en parle au Québec, gouvernement après gouvernement, donc de faire le saut vers le soutien à domicile plutôt que le soutien à l'institution. Je pense qu'il est temps de le faire.
Et c'est d'autant plus logique qu'en termes de coût, soutenir quelqu'un à domicile, c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'en institution.
Bien, c'est ça. Il y a toute une logique économique, hein, qui pourrait mm-hmm. nous faire croire que le soutien à domicile est une mauvaise idée ou serait un trou sans fond au niveau des finances. Puis comme vous dites, bien, effectivement, ça coûte en moyenne 23 000 $ par année pour donner du soutien à domicile à une personne, alors que ça en coûte en moyenne 73 000 $ en CHSLD. Il y a une énorme différence. Donc, même dans la logique économique, on se demande en fait pourquoi le gouvernement... Fait pas le pas vers le soutien à domicile mm-hmm. de façon plus concrète.
Avant de terminer, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, où, quand, combien?
Oui, bien sûr. Donc, c'est gratuit. Je vous demanderai par contre de vous inscrire. C'est important parce que les places sont limitées. Puis évidemment, si vous avez des besoins particuliers, on veut le savoir. Est-ce que vous avez besoin d'aide physique, d'un interprète? C'est un événement inclusif, évidemment, accessible à tous. Donc, c'est important que vous vous inscriviez. Pour s'inscrire, bien, on a un site web, évidemment. Visitez notre compte Facebook sur Execo pour avoir tous les détails. Donc, c'est le 2 mars, un vendredi après-midi, d'une heure et demie à 4h30. Je vais prendre un café, un petit biscuit, puis écoutez, parler de droit.
Mm-hmm. Un rendez-vous, puis finalement, un rendez-vous qui pourrait changer des vies, disons-le.
C'est-à-dire oui, absolument.
Oui, oui. Alors, merci. On parle maintenant de Patrick Zabé qui, dans la presse de cette fin de semaine, nous a fait part de son état de santé. On a choisi le texte de TVA Nouvelles pour vous en parler. Patrick Zabé n'a jamais oublié la date du 9 avril 2007. Ce jour-là, le diagnostic d'un neurologue est tombé. Il était atteint de la maladie de Parkinson. À 65 ans, son existence prenait un autre tournant. Ses larmes de colère et d'incompréhension ont toutefois été brèves et il s'est vite retroussé les manches. Près de 11 ans après le début du combat qu'il livre au quotidien, le chanteur qui a été une grande vedette populaire dans les années 60 et 70 avec des tubes comme « Agadou »,« Seigneur Météo »,« Les lunettes » et « Ce qu'on est bien quand on est dans son bain », continue de faire un pied de nez à cette maladie dégénérative. Au dos du T-shirt qu'il porte, il résume son plan d'action. « Pour toi, Parkinson, je m'entraîne, je marche, je travaille, je chante, je vis ». Sur le devant du chandail, un gros doigt d'honneur prend la place de Lee dans Parkinson. Le message ne saurait être plus clair. Avant le diagnostic, la maladie s'est d'abord manifestée sous la forme de tremblements aux mains, de rigidité dans un bras et de posture. Les symptômes s'aggravant, il a été dirigé vers un neurologue. Personne ne comprenait. Depuis des années, il fréquentait le gym plusieurs fois par semaine, il consommait peu de viande rouge, lui préférant une alimentation plus riche en végétaux, et il n'y avait aucun cas du genre dans sa famille. Personne n'est parvenu à lui expliquer pourquoi il avait développé le Parkinson. Il ne sait toujours pas aujourd'hui, mais à tout le moins, le pronostic n'était pas fatal malgré la sévérité de la maladie. Quand j'ai demandé à mon neurologue combien d'années je pouvais espérer vivre, il m'a dit que j'allais mourir à 95 ans et que je conserverais une belle qualité de vie si je prenais fidèlement ma médication et que je demeurais actif. Alors, toujours chez TVA Nouvelle, un texte intitulé « Son dossier dans les limbes du réseau ». Un résident de Québec qui attend un médecin de famille depuis près de 4 ans s'impatiente après avoir découvert que son dossier dormait sur le bureau d'un médecin. Jocelyn Martel explique qu'il s'est inscrit au printemps 2014 au guichet d'accès pour la clientèle orpheline, l'ancêtre du guichet d'accès à un médecin de famille. L'homme de 54 ans, aux prises avec d'importants troubles cardiaques, affirme que son dossier est gelé, perdu, dans ce qu'il appelle les limbes du système de la santé. C'est la conclusion qu'il tire de la réponse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale à une plainte qu'il a déposée en début d'année. Dans une lettre que le Journal de Montréal a pu consulter, le commissariat aux plaintes mentionne à M. Martel que sa demande a essuyé le refus d'au moins un médecin en juin 2017. Puis, le 31 juillet suivant, son dossier a été acheminé à un autre omnipraticien qui n'avait toujours pas fourni de réponse 7 mois plus tard. Déjà que le délai est long, là, il y a un délai inutile de 7 mois qui n'est pas terminé encore. C'est ce qui m'a accroché, s'exclame l'analyste informatique à la retraite, stupéfait qu'il n'y ait aucun mécanisme pour prévenir ce type de situation. Et voilà qui nous ramène au sujet de votre conférence, M. Caron. On a maintenant le grand plaisir de parler à M. Daniel Lanteigne, qui est directeur général de la Fondation Réa. M. Lanteigne, bonjour donc.
Bonjour à vous.
Et on va commencer par le commencement. La Fondation Réa, R-E-A, c'est quoi?
Effectivement, c'est un nom qui résonne tranquillement, pas vite. C'est l'union à la suite de la fusion et la création de la loi 10 dans le ministère de la Santé. 3 établissements de réadaptation à Montréal qui ont fusionné ensemble. L'Institut Raymond Devoir avec une clientèle sourde, trouble du langage. L'Institut de réadaptation Jean-Grolinzi de Montréal et le Centre de réadaptation Lucie Bruno. Chacun de ces institutions-là, finalement, avait sa propre fondation. Évidemment, on avait pari coché pas vraiment le choix de s'unir et de s'harmoniser. Donc, on a créé la Fondation Réa, là, qui est juste le préfixe de réadaptation, finalement.
OK. Et la Fondation, évidemment, a différentes activités. Si vous nous disiez lesquelles principalement actuellement?
Donc, nous, on est principalement une fondation de type hospitalière. Donc, on répond à des besoins, évidemment, des projets de recherche. On a un mandat d'institut universitaire ici à Montréal. On répond aussi à des besoins technologiques, des projets axés sur la clientèle. Et on a mis de l'avant un nouveau projet, un nouveau programme plus dernièrement, qui est ce qu'on appelle le fonds de dépannage. Donc, qui est une aide concrète qui vient en aide aux usagers qui, malheureusement, bien, des fois, on parlait tantôt d'une clientèle plus vulnérable, c'est évidemment une clientèle plus vulnérable aussi de façon économique. Et ces gens-là, des fois, ont besoin d'un petit 100 $ pour un appareil qui n'est pas couvert par la régie de l'assurance maladie, pour sortir aussi de l'établissement.
Il y en a moins de 100 $.
Non, malheureusement. En tout cas, ça semble être assez...
Je me disais aussi, ça, c'est généralement prohibitif.
C'est assez onéreux, tout ça. À des usagers qui sont hospitalisés chez nous, mais évidemment, à la fin de semaine, il n'y a pas de service, veulent retourner dans leur milieu de vie. Évidemment, ça prend du transport adapté, ça prend certaines ressources, et ces gens-là n'ont pas nécessairement accès financièrement à pouvoir se payer tout ça. Mm-hmm. Et là, c'est là qu'on a décidé d'implanter le fonds de dépannage à ce moment-là, qui est une mesure qu'on se veut permanente à la Fondation. Donc, c'est une enveloppe distincte qu'on met au profit des usagers. Ça doit passer par un intervenant. Généralement, c'est le travailleur social qui nous achemine la demande. Donc, nous, notre vision et notre mission, bien, finalement, c'est de répondre à un besoin qui va aider cette personne-là à retourner dans une vie active ou qui va aider à sa réadaptation actuelle, autant si la personne est hospitalisée ou non, là, finalement.
Oui, parce qu'il faut le dire, on parlait de vulnérabilité de ces clientèles-là en première entrevue. La vulnérabilité économique, c'est une réalité et la pauvreté, c'est souvent le lot de beaucoup de personnes handicapées au Québec.
Tout à fait.
Donc, qui peut bénéficier de votre fonds de dépannage?
On l'a ouvert vraiment de façon très large à l'ensemble des usagers, donc qui sont admis, qui sont même en clientèle externe. Donc, ça comprend évidemment la clientèle des enfants avec l'Institut Raymond Devoir et la clientèle adulte dans les 3 autres centres. Et vraiment, comme je vous disais, ben oui, ça peut être des appareils qui sont non couverts par la RAMQ. Ça peut être concrètement, ben moi, je suis amputé de la jambe droite, disons que c'est un cas de diabète, ben ça me prendrait peut-être une orthèse plantaire de l'autre côté pour m'assurer de maintenir mon pied en santé, bien, l'orthèse plantaire, dans ce cas-là, pourrait être assujettie à avoir une demande de remboursement au fonds de dépannage. Donc, c'est vraiment des outils au quotidien qui ne coûtent pas très cher pour une bonne partie de la clientèle, mais que pour certains, là, finalement, ça peut devenir un frein. Et des fois, même pour l'entourage, on pense à une clientèle sourde qui veut se faire comprendre de sa famille, qui ne sont peut-être pas nécessairement sourds, ben, un dictionnaire des langues des signes du Québec pour permettre la facilité d'interaction avec ses proches. Donc, c'est tous des outils qui aident finalement à avoir une vie plus intégrée là, qu'on va les rembourser.
Finalement, il y a plein de choses qui ne sont pas si dispendieuses que ça, qui changent la vie.
Effectivement, ça peut arriver. Nous, on s'est mis un maximum par usager par année qui est de 100 $ afin de gérer ce programme-là puis de gérer notre enveloppe financière. Mais effectivement, souvent, je vous dirais, la moyenne du montant qui est demandé là, depuis le début du programme, c'est 75 $ par usager par année. Mm-hmm. Et ça répond très bien. Et pour eux, ben, ça fait tout le changement. Là.
Et combien d'usagers en profitent chaque année?
Ben, à ce montant-là, on peut aller fournir là, finalement une aide financière à peu près jusqu'à 150 usagers basés sur ce qu'on a. À ce jour, on l'a lancé, voyez-vous, au printemps l'année dernière. On est près d'une 50aine d'usagers à ce jour-ci. C'est un programme qui mérite d'être de plus en plus connu et auprès de la clientèle. Puis on a souvent des patients qui nous appellent puis on leur explique que tout ça peut se régler là, des fois en 2-3 jours. On a voulu mettre aussi un mécanisme en place là, qui soit très facile là, pour ces gens-là.
Alors, faire sortir de l'argent pour les aider, c'est bien. En faire rentrer, c'est pas mauvais non plus. Donc, comment vous financez ça?
On finance ça, bien, principalement, je vous dirais, avec les ex-patients qui sont venus chez nous. On fait notre campagne annuelle de sollicitation. Ça, c'est un de nos... on a évidemment les employés. Et finalement, bon, on fait toujours des événements au cours de l'année. L'an passé, on a fait un cocktail bénéfice là, qui était Love sur la thématique des Beatles. Mm-hmm. Là, on est en train de revoir l'ensemble de nos événements pour l'année à venir. Donc, on bénéficie quand même, je vous dirais, d'un très, très bel appui de notre ex-clientèle là, qui continue de soutenir la cause de la réadaptation.
Et si, justement, on veut vous aider, comment est-ce qu'on vous rejoint?
Mais le plus simple, c'est souvent par Internet, donc sur le site fondationrea.ca. Vous pouvez également nous appeler au 514-340-2707.
Et bon, je m'imagine que je ne me trompe pas si je dis que les dons sont déductibles d'impôts là, d'un certain montant.
Effectivement, à partir de 10 $, il y a un reçu d'impôt qui a été mis automatiquement.
Ce qui fait que si vous avez, vous, la chance d'avoir un bon revenu, c'est un don qui ne vous revient pas très cher en bout d'année, exact. En bout de piste, là, une fois compté l'impact fiscal.
Tout à fait.
Et vous imaginez avoir... donnez-moi une idée de l'ordre de grandeur du budget, des objectifs de financement que la Fondation peut...
Bon, finance, là, grosso modo, je vous dirais, en ce moment, on a un engagement financier de 300 000 $ de différents projets, autant la recherche, la clientèle avec un handicap moteur qu'un handicap sensoriel. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent là, qui est investi dans l'ensemble de nos projets. Les demandes vont continuer d'être croissantes. On est conscient qu'il y a une certaine pression là, sur l'outil administratif. Donc, la Fondation devient souvent, finalement, un bailleur de fonds qui est très nécessaire à ces instituts-là. Donc, nous, évidemment, on continue activement de chercher tout partenariat, autant avec des dons d'individus, mais aussi des partenariats corporatifs pour soutenir la réadaptation physique au Québec.
Mais il s'agit de 300 000 $ qui font une différence dans la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Il y a une grande différence.
Tout à fait, vraiment. On voit l'impact et on le perçoit. Physiquement, on est directement aussi sur le local à l'Institut de réadaptation Jean-Grenier de Montréal. Donc, on voit l'impact que ça a directement.
Bien, Monsieur Lantaigne, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir informés.
Merci à vous.
Alors, si on s'éloigne du pays, apprendre à gérer un enfant anxieux. Être parent amène son lot de responsabilités. Alors, comment gérer plusieurs enfants atteints de troubles de l'anxiété? C'est le cas de P.J. Atkins, une mère de Regina, qui affirme avoir à s'adapter à cette réalité quotidiennement avec ses 6 enfants. Elle a pris part dimanche avec d'autres parents et professionnels de la santé à une formation sur la santé mentale des enfants à l'Université de Regina. Chacun des enfants de P.J. Atkins exprime des troubles d'anxiété plus ou moins sévères. Son garçon de 12 ans s'enfuit parfois de l'école pieds nus quand il se sent stressé. Mais c'est sa fille de 13 ans qui l'inquiète et l'épuise le plus avec son angoisse quotidienne de mourir. La semaine dernière, c'était son appendice. Elle se plaint de toutes sortes de douleurs maintenant. Elle pense qu'elle développe une sclérose en plaques. Selon Tammy Shamoun, psychologue à l'Institut de psychologie pour enfants d'Edmonton, un enfant sur 8 souffre de troubles de l'anxiété, un taux qui, selon elle, a augmenté de 50% au cours des 30 dernières années. D'après elle, comme la génétique de l'humain n'a pas changé, c'est qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui explique ce constat alarmant. Elle estime que les enfants sont exposés à trop de technologies et pas assez de jeux, qu'ils devraient avoir du temps pour vivre des aventures et explorer le monde. La psychologue précise que le défi pour les parents est de limiter leur propre utilisation quand ils sont eux-mêmes dépendants de leur téléphone. Mauvaise nouvelle en santé publique à Terre-Neuve, puisqu'on y apprend, et c'est Radio-Canada qui nous le dit, que les cas de syphilis sont en hausse à Terre-Neuve. La Régie de santé de l'Est de Terre-Neuve met la population en garde contre une hausse marquée du nombre de cas de syphilis dans la province. 42 cas ont été signalés depuis un peu plus d'un an et 7 cas depuis le début de l'année. Le nombre de cas de cette maladie sexuellement transmissible était en baisse en 2016, précise la Régie par voie de communiqué. Le quart des patients qui ont contracté la syphilis depuis un an sont également devenus séropositifs, tandis que 13 d'entre eux ont également reçu un diagnostic de neurosyphilis qui peut mener à la cécité et à la surdité. La maladie touche toutes les tranches d'âge. La majorité des cas ont été recensés chez des hommes et des femmes de 15 à 63 ans. Comme la syphilis se transmet lors de relations sexuelles non protégées, les autorités sanitaires de Terre-Neuve rappellent aux gens l'importance d'utiliser le condom. Les responsables de la santé publique croient que la popularité de certaines applications de rencontres comme Tinder et Grindr ont pu contribuer à la hausse. Ces applications favorisent les rencontres anonymes et rendent plus difficile l'identification des partenaires sexuels des personnes infectées. Si elle n'a pas été traitée, la maladie peut s'attaquer au cerveau, aux vaisseaux sanguins, au cœur et aux os, et même mener à la mort. Alors, pour terminer l'émission rapidement, les anciens Canadiens sont de retour à Gatineau. L'an dernier, l'organisme régional avait tenu une activité de financement pour leur cause, un match amical entre les ex-joueurs de la Sainte-Flanelle ainsi que des hommes d'affaires. Bien qu'à la retraite, les ex-hockeyeurs professionnels l'ont emporté. On avait eu une belle participation, plus de 2000 personnes s'étaient présentées. Ce rendez-vous se tiendra pour une deuxième année au centre Robert-Guertin, mais au lieu de le tenir à l'hiver, l'événement prendra place au printemps, soit plus précisément le 8 avril à compter de 13 heures. On espère même que le vieux Bob sera rempli, ou du moins attirer 3000 spectateurs, a exprimé Mme Pelletier. Patrice Brisebois, Richard Sévigny et Stéphane Richer font partie de la belle brochette de joueurs qui seront en action dans l'amphithéâtre de la rue Carillon. Le dernier nom de cette liste est le plus attrayant. Les coûts d'un billet varient. 15 $ pour les personnes mineures, 25 pour les 18 ans et plus. Un forfait VIP à 60 $ est aussi offert pour les amateurs qui aimeraient passer un peu plus de temps avec les anciens Canadiens au restaurant Houston en profitant de bouchées et en faisant signer leur chandail ou casquette. Pour acheter un billet, rendez-vous au resto-bar Le Pêle-Mêle ou à la succursale du Guisport. Et finalement, le RAAMM et le RAAQ, R-A-A-A-Q, vous invitent à une consultation sur les services de réadaptation le vendredi 9 mars 2018 de 9h30 à midi au centre communautaire Berthe-Réaume au 5225 rue Berry-Salsan. Les animateurs seront Martine Grenier et Antoine Perrault. C'est une activité gratuite. Dans le cadre d'une consultation du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, le RAAQ, le RAM invite ses membres à une rencontre d'échange sur les situations que vous avez vécues dans vos centres de réadaptation. Et voilà qui conclut cette édition du 26 février 2018. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été des nôtres, ainsi que Jean-Sébastien, qui a assuré la mise en onde de l'émission. Je rendrai demain ce micro à sa titulaire, Hélène Denis. Merci d'avoir été là.